Continuer la méditation dans le premier épître de Pierre, 1 Pierre 2, à partir du... On relit les 10 premiers versets. 1 Pierre 2, 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Voilà, je rappelle un petit peu le contexte dans lequel l'apôtre Pierre a envoyé ses lettres. Il a envoyé ses lettres à des frères et sœurs qui étaient dispersés, qui étaient persécutés, et pour certains qui avaient tout perdu et qui se retrouvaient en terre étrangère. Alors nous imaginons un petit peu la détresse de ces personnes qui étaient réparties un petit peu en Asie. Nous imaginons la détresse et la peine, la souffrance de ces personnes, de ces chrétiens qui étaient persécutés. Mais quand nous voyons la structure un petit peu des lettres, non seulement de l'apôtre Pierre, mais quand nous regardons toutes les lettres de Paul, nous nous apercevons qu'il prend un petit peu à contre-pied la psychologie. Il veut détourner leur regard de eux-mêmes, de leur situation, et on va dire c'est difficile, mais il essaie de centrer leur regard sur Christ. Dans le chapitre premier, nous voyons qu'il essaie de centrer sur l'héritage qui est dans le ciel. Quand nous continuons, nous voyons qu'il essaie de centrer leur regard sur Christ, qui il est, son identité. Il essaie de leur montrer combien ils ont une foi placée en lui. En Christ seul, il y a la solution. Christ est notre solution. Christ est notre réponse. Christ est celui qui nous apporte ce dont nous avons besoin ce soir, et Christ est suffisant en toutes choses. Nous n'avons pas besoin d'autre chose ou de quelqu'un d'autre que de Christ. Et Christ est suffisant. Et cela, c'est pas évident dans les moments difficiles. Eh bien, on détourne facilement les regards de Christ, de sa parole, des promesses, et on les centre sur nous, sur notre souffrance, sur ce qu'il y a autour. Et ça n'arrange pas, ça n'évolue pas, tandis que le Seigneur en un instant peut changer notre cœur, notre vie. En un instant, il peut nous communiquer une parole de guérison. Oui, il est dit dans le psaume 107, au verset 20, « Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. » Et je crois dans l'efficacité de cette parole, et je veux de plus en plus plonger les regards dans cette parole, dans les promesses, afin que, eh bien, par lui, je puisse être fortifié. Car dans les temps que nous vivons, dans ces derniers temps, l'apôtre Jean dira même dans les derniers jours, dans son épître, eh bien nous avons besoin d'être fortifiés dans la foi. c'est pas de vivre bien. Si nous sommes fortifiés dans la foi, nous vivrons bien. Mais nous avons besoin d'être fortifiés, d'arriver à une maturité pour que les circonstances, les gens ou autres, la persécution ne nous entraîne pas loin de la foi en Jésus-Christ. Et vous savez, beaucoup sont tombés et on n'est pas meilleur qu'eux. S'ils sont tombés, c'est qu'ils n'ont pas veillé et à un moment donné, le découragement a pris le pas et ils sont laissés entraîner. Mais nous, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de toujours placer nos regards sur Christ. Il leur rappelle toujours ce que nous sommes, qui est Jésus bien sûr, mais ce que nous sommes devenus en lui. L'héritage dans les cieux, mais également l'œuvre de Dieu qui continue malgré l'adversité. Alors on dirait peut-être nous on n'aurait pas écrit ce que Pierre a écrit à ces chrétiens. On leur aurait dit, on vous comprend, on est avec vous, on prie pour vous, etc. Mais l'apôtre Pierre leur dit, mais vous devez continuer à bâtir. L'œuvre de Dieu continue. C'est pas par nos forces que nous pouvons accomplir quoi que ce soit, mais c'est par la foi en lui et par l'action du Saint-Esprit. C'est là que nous bâtissons et l'œuvre de Dieu, elle continue. Quand on est fatigué, l'œuvre de Dieu, elle continue. Et même fatigué, nous pouvons, comme dira dans le livre des Juges, fatigué, mais poursuivant toujours. Nous devons compter sur le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Alors nous étions arrêtés au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous avons juste dit la dernière fois la contradiction apparente entre pierre et vivante. Une pierre, c'est plutôt inerte, froid. Il n'y a aucune vie dans une pierre, vous la placez là, elle ne bougera pas. Donc quand nous voyons une pierre, et là il est dit une pierre vivante. Le Seigneur a employé beaucoup d'images dans sa parole pour nous parler de l'Église, de la communion, du cep et des sarments. Il nous parle comme une armée, comme un troupeau, etc. Il nous donne beaucoup d'images pour nous faire réaliser ce qu'est l'Église, la communion fraternelle. Mais là, il est question de pierres édifiées les unes avec les autres. Cela nous parle de la solidité, bien sûr, de la solidité de ce que Dieu est en train de bâtir. L'Église, c'est son Église. C'est lui, l'architecte et le constructeur. C'est lui qui bâtit l'Église, au travers de tous les méandres, au travers de tout ce que nous pouvons voir ici, ailleurs, dans toute la chrétienté. Christ bâtit son Église, en tous les cas, l'Église qu'il va venir chercher. Cette Église qui sera sanctifiée, purifiée, sans ride ni tache, c'est l'Église qu'il va venir chercher bientôt. Et le Christ est en train de la bâtir. Alors, quel privilège immense! Nous étions comme ces pierres sur le bord du chemin, nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, mais Christ nous a donné la vie, il nous a ressuscités, il nous a sauvés, il nous a délivrés. Quel privilège! Je crois que simplement pour ce salut qui est tellement grand, nous devrions sans cesse, et je crois que nous le faisons sans cesse, tous les jours, remercier Dieu. Remercier Dieu pour la grâce, pour le salut. Je ne sais pas si on mesure toujours le grand privilège que nous avons de lui appartenir, d'avoir été rachetés. Nous étions morts, nous étions dans les ténèbres et Christ est venu nous chercher. Nous étions aussi sans valeur et il nous est dit que c'est lui qui nous a choisis et nous sommes précieux. Nous avons de la valeur à ses yeux. Autrefois, nous étions inutiles, mais en Christ, nous sommes devenus utiles pour son œuvre. Alors c'est un grand privilège. Alors je ne sais pas si quelqu'un est fatigué, quelqu'un est découragé, je ne sais pas si ces paroles vont vous fortifier, vous encourager, mais de dire que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu et qu'il nous utilise pour bâtir, pour édifier, il nous utilise pour son œuvre, pour construire et façonner son Église qu'il va venir chercher. Alors, oui, il faut que ça nous encourage parce que c'est tellement beau. Quel privilège! Non seulement il nous a sauvés, mais il nous rend participants de sa nature divine et il nous rend participants de son œuvre. Il bâtit avec nous. Il pourrait se passer de nous, mais il bâtit avec nous. Quelle considération! Son œuvre, elle est grande, elle est belle, elle est glorieuse. Ce que Dieu fait est beau, ce que Dieu fait est durable, ce que Dieu fait dure pour toujours. Alors nous bénissons Dieu en lui disant, mais qui je suis moi pour que tu m'utilises dans ton œuvre? Je suis si faible, parfois découragé, mais Seigneur, je veux regarder à toi tous les jours de ma vie afin d'être fortifié. Nous verrons ce soir juste trois étapes dans cette construction de la maison spirituelle, du temple. Approchez-vous de lui. Venir à Jésus. Vous savez, Jésus est notre raison d'être. Il est la raison principale pour laquelle nous venons à l'Église. Il est la raison pour laquelle nous espérons et nous persévérons. C'est en venant à lui, c'est en comptant sur lui, que nous pouvons être fortifiés. Tout puissant, il est celui qui agit. Tout disparaîtra, mais Jésus-Christ demeure. Et il demeurera toujours, un ancien chant nous disait, « Seul Jésus demeure, terre et ciel pourraient passer, mais seul Jésus demeure. » Tout disparaîtra, mais Jésus et sa parole demeureront pour l'éternité. Autour de nous, il y a bien des choses qui disparaissent, des êtres chers qui s'en vont. C'est comme ça, c'est la vie, mais Jésus demeure. Jésus demeure. Tout peut s'écrouler, tout peut disparaître. Et comme ces chrétiens qui étaient dispersés, persécutés, ils avaient tout perdu pour certains, mais Jésus était là. Jésus demeure. Et si notre foi est établie en Christ, si nous avons les regards fixés sur lui, nous tiendrons jusqu'au bout. Malgré nos faiblesses, malgré nos limites, malgré nos péchés aussi, parfois nous bronchons d'une manière ou d'une autre, mais si nous regardons à Christ, nous pourrons aller jusqu'au bout, jusqu'à son retour, ou si le Seigneur le décide, le jour où nous partirons avec lui. En venant à lui, Christ nous crée une dépendance de lui. Comme je le disais, notre raison d'être sera toujours Christ, dans le témoignage, dans le service. Et quand je viens à l'Église, c'est Christ, c'est pour lui et par lui d'abord. Si c'était seulement pour nous rencontrer les uns et les autres, si c'était ça la première raison, ça ne durerait pas. Parce que nous avons nos limites et bien sûr nos difficultés apparaîtraient. Mais nous venons d'abord par Christ et pour lui. C'est pour l'honorer, c'est pour le servir. C'est pour le glorifier que nous venons à l'Église, et bien sûr, si nous venons tous avec cet état d'esprit, eh bien la communion ensemble, elle devient spirituelle. Et là, c'est du solide. C'est par lui, pour lui, d'abord, que nous venons nous rassembler. Et nous ne serons jamais déçus si c'est pour Christ en premier que nous venons. En venant à lui, nous nous soumettons à lui pour pouvoir aller plus loin. Nous édifier en Christ. Alors dans quel but nous édifier en Christ? Dans quel but nous fortifier? Dans quel but? Pour former une maison spirituelle. Pour former une maison spirituelle. C'est lui qui nous édifie. Et nous édifions en lui ensemble. Tous les jours de notre vie, nous édifions quand nous venons à l'Église, mais nous édifions tous les jours de notre vie. Quand nous méditons la parole, seuls chez nous, nous édifions. Quand nous prions, nous édifions. Et c'est pour cela, c'est important, le culte personnel, chaque jour, un culte personnel. L'apôtre Paul dira, je parle en langue plus que vous tous, mais dans mon culte privé. Et quand je parle en langue, je m'édifie. Alors puissions-nous pratiquer le parler en langue dans notre culte personnel. Méditons les Écritures et je crois que le Seigneur est en train de nous édifier et quand il nous édifie, quand il édifie mon frère, ma sœur, eh bien ensemble nous allons nous édifier pour former une maison spirituelle. L'Église, le rassemblement, les réunions, les cultes, c'est spirituel. Il faut que ce soit spirituel. C'est le corps de Christ qui doit être empreint de sainteté, d'amour, de grâce, de foi, de crainte de Dieu, de révérence. Oui, de révérence. Jésus est digne que nous puissions nous incliner devant lui, que nous puissions nous prosterner devant lui. Il est digne. Et si c'est pour lui que nous venons, si c'est lui en premier, si nous comprenons que c'est lui qui nous édifie, eh bien nous allons nous courber devant lui. Nous allons nous incliner devant lui. Est-ce que la louange est difficile d'apporter à ce grand Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs? La maison que Christ bâtit est une maison spirituelle. Elle est spirituelle avant tout et elle est tout. Voilà, c'est spirituel et c'est tout. Nous rendre toujours compte de la présence de Dieu au milieu de nous. Il ne faut pas que nous changions la destination, la vocation de cette maison de spirituelle, cette maison de spirituelle, et qu'il ne s'y trouve autre chose que la prière, l'adoration, la parole de Dieu, la grâce de Dieu, la foi, l'amour. Il faut que ces choses s'y trouvent et qu'elles y soient en abondance. Nous avons, je n'ai pas médité sur ça dimanche matin, mais cette maison de prière qui était destinée à la prière pour toutes les nations, et Dieu l'avait voulu ainsi, mais petit à petit, elle a dérivé et c'est devenu autre chose qu'une maison de prière. Jésus a été obligé de chasser tout le monde, mais comprenons que Dieu veut que nous soyons une maison spirituelle. Voilà, il n'y a pas autre chose qui doit s'y trouver. Alors Jésus approuvera cela, une maison spirituelle, venant en étant édifiée par Christ. Nous venons de la maison de chez nous en étant édifiés par Christ, et nous venons nous édifier ensemble en lui. Jésus approuvera toujours cela et se manifestera quand dans un lieu il est élevé, il est glorifié, quand dans un lieu il y a de la révérence, du respect pour lui, quand dans un lieu il y a de l'adoration pour Christ, quand nous venons avec ce cœur pour rencontrer notre Seigneur ensemble. Nous l'avons rencontré chez nous, mais nous venons le rencontrer ensemble. Nous venons à sa rencontre ensemble. Vous voyez, dans le psaume 84, quand vous lisez ce psaume, j'aime beaucoup ce psaume 84, et quand vous lisez dans les premiers versets, il y a dans le cœur de ce pèlerin qui se rend à Jérusalem, qui se rend au temple, il y a un petit peu les motivations, il y a dans son cœur, il y a déjà, avant qu'il arrive au temple, il y a déjà combien les délices de ta maison, etc., l'autel des parfums, il pense à tout cela alors qu'il est en chemin et qu'il va traverser un chemin difficile. C'est la vallée des Mûriers, c'était un endroit vraiment très très difficile à traverser. Il y avait des géants dans cette époque, il y avait des brigands qui étaient par là-bas, un désert un peu affreux, et il devait traverser cela. Mais lui, dans son cœur, il se languissait d'arriver au temple. Alors je ne sais pas combien de temps il mettait, mais il se languissait d'arriver au temple, et déjà dans son cœur, il y avait des motivations de louange, d'action de grâce. Il pensait à Dieu, il pensait aux autels des parfums, il pensait à tout cela alors qu'il y allait. Que Dieu nous aide à nous préparer toujours, à nous préparer. D'ailleurs, que l'on vienne au culte, que l'on vienne à la prière ou que l'on ne vienne pas, que ce soit un autre jour, il faut toujours que nous soyons préparés spirituellement. Que le Seigneur nous aide à bâtir, à édifier ces choses tellement précieuses, importantes. Quand Jésus trouvera ses cœurs aussi, quand il trouve ses cœurs, il approuve et il dira lui-même, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand j'aurai été élevé. Vous savez, c'est tellement important de marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, d'avoir du respect, de la révérence vis-à-vis de Dieu. Ça agit sur nos cœurs, ça agit sur l'Église, mais ça agit aussi sur les pécheurs qui rentrent. Quand ils trouvent une église où il y a la sainteté, où il y a la crainte de Dieu, où il y a l'amour, la foi, eh bien, le miracle, c'est que le Saint-Esprit agit et ils sont convaincus de péché. Mais quand il y a déjà du péché dans l'église, ben, ça va être un peu difficile. Mais que Dieu nous aide. Parce qu'en fait, c'est cela, il les encourage. Et je crois qu'ils étaient découragés et il les encourage en leur disant « Voilà comment vous devez marcher. » Alors une maison spirituelle, un saint sacerdoce, le deuxième point, un saint sacerdoce. Vous savez que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Pas seulement un temple, mais aussi un temple pour offrir. Et vous savez que le premier sacrifice que nous devons offrir nous-mêmes, le premier sacrifice, c'est notre personne. Vous trouvez cela dans Romains au chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà, Dieu, c'est nous qui veut. Avant toute chose, avant tout service, avant toute action, avant quoi que ce soit, que nous, il nous veut. Il nous veut nous, il veut notre cœur tout entier, il nous veut nous. Voilà, sur l'autel. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons offrir, tant que nous ne sommes pas offerts réellement nous-mêmes, en renonçant à nous-mêmes, nous ne pouvons rien offrir à Dieu qui lui soit agréable. Mais quand nos cœurs sont disant « Seigneur, voilà ma vie, mon cœur, tout est à toi, tout appartient, tu m'as racheté, j'étais mort, tu m'as racheté, tu m'as rendu à la vie, maintenant Seigneur, ma vie elle t'appartient. » En venant avec ces dispositions-là, eh bien ensuite nous pouvons offrir. Hébreux 13, 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Waouh ! Oui, offrons. Offrons-nous nous-mêmes. Ce n'est pas notre activité que Dieu veut. Avant même notre louange, Dieu veut notre cœur. Que notre cœur lui soit entièrement dévoué, qu'il lui appartienne. Vous savez que Dieu est un Dieu jaloux ? Pas dans le sens péjoratif, mais Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il nous veut tout entier. Mon fils, donne-moi ton cœur, tout entier. Il ne veut pas partager avec d'autres dieux, avec d'autres idoles, avec d'autres préoccupations qui deviennent, finalement, quand ça nous prend notre temps, notre énergie, nos soucis, ça devient un dieu dans notre vie, ça nous dirige. Eh bien, c'est Christ qui veut régner dans notre cœur. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Vous savez que dans l'Ancien Testament exigeait des sacrifices d'animaux pour couvrir le péché, chaque fête, un renouvellement perpétuel de sacrifices d'animaux, mais Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes, et ainsi tous les sacrifices d'animaux ont été annulés. Christ est le sacrifice parfait, par excellence. Alors ça réjouit nos cœurs de savoir que nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la grâce, où nous n'avons plus besoin d'offrir ces choses matérielles, mais Christ s'est offert lui-même. Et par lui, par Jésus, eh bien, nous pouvons offrir des victimes agréables à Dieu. Alors souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait ces trois choses, le temple, le sacerdoce et les sacrifices. Bien, vous savez que maintenant, c'est nous ces trois choses. Le temple, c'est nous. Alors, je donne juste des références comme ça, si vous notez. Le temple, la maison de Dieu, c'est nous. Hébreux 3, 6 et 1 Corinthiens 3, 16. Les sacrificateurs, eh bien, c'est nous aussi. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 6, il a dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Et enfin, le sacrifice, c'est nous aussi. Romains 12, 1, je l'ai cité tout à l'heure, le sacrifice, c'est nous. Tout ce que le peuple pratiquait, eh bien, nous le sommes devenus. On n'a plus besoin d'un temple matériel, mais le temple, c'est nous. Si nous n'avions pas de local, on se réunit dans la nature, eh bien c'est quand même le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est quand même cette maison spirituelle. Ce n'est pas les murs, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Quel privilège, mais quelle responsabilité aussi. Qu'est-ce que nous faisons de la maison de Dieu? Alors, notre caractéristique, nous sommes des pierres vivantes dans ce texte. Mais Christ, lui, est la pierre angulaire, le fondement. En parlant de la pierre angulaire, il est dit aussi qu'elle a été choisie et précieuse. D'ailleurs, Jésus dira dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est le chapitre 10, mais il dit « Me voici, ô Père, pour faire ta volonté, choisie et précieuse. Quel sauveur merveilleux nous possédons. Jésus est extraordinaire. On ne pouvait pas avoir mieux que Jésus, le Fils de Dieu. Et si le Père l'a envoyé, c'est son Fils bien-aimé qui l'a envoyé. C'est lui, le Fils de la maison. Nous bénissons Dieu pour Jésus. Alors cette pierre angulaire, cette pierre maîtresse qui soutient toute chose, toute la bâtisse est soutenue par cette pierre angulaire. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, il est dit « Selon la grâce », et c'est Paul qui parle, inspiré, il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Quel fondement ? Jésus. Alors, c'est beau, et cet homme, j'ai déjà cité ce témoignage de cet homme qui était alcoolique, qui a été délivré par la puissance du Seigneur, il a été délivré, et ses anciens amis, il s'est converti, il a été délivré, mais ses anciens amis le croisaient, diraient, mais tu viens plus avec nous, non, je suis converti, et maintenant je ne bois plus, je veux suivre le Seigneur Jésus, oui, mais tu tiendras pas, tu reviendras nous voir, tu reviendras avec nous. Et lui, il leur a dit, c'est vrai que je tremble des fois par la tentation, mais le rocher sur lequel je suis ne tremble pas. C'est Christ. Nous bénissons Dieu parce qu'en toutes circonstances, dans toutes nos tentations, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos difficultés, Christ est le rocher solide, le fondement, la pierre angulaire, celle qui tient tout. Notre foi, elle est basée sur Christ et personne d'autre. Notre vie, elle est basée sur Christ et rien d'autre. L'Église, elle est fondée sur Christ et rien d'autre. Tout ce qu'il y a en plus, tout disparaîtra. Mais Christ, lui, demeure éternellement. Alors, je vais terminer. Au milieu de toutes les difficultés de ces chrétiens, l'apôtre Pierre leur dit « L'honneur est pour vous qui croyez. » Est-ce qu'ils peuvent le recevoir dans des difficultés? Est-ce qu'on peut leur dire mais c'est un honneur de croire en Jésus? C'est un honneur. C'est une grâce. Oui, nous sommes sauvés. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est une grâce. On n'arrive pas à mesurer pleinement. Je prêchais hier à des obsèques et c'est vrai qu'on ne peut pas réaliser pleinement ce qu'est l'éternité, la vie, la félicité, la gloire éternelle. On ne peut pas vraiment réaliser, mais Christ nous a changé notre destinée éternelle. Nous étions destinés à vivre loin de Dieu pour l'éternité, dans ce lieu de tourment. Et Christ a changé notre destinée éternelle quand nous l'avons accepté. C'est une grâce imméritée, mais nous devons le remercier tous les jours de notre vie. C'est aussi un privilège. Je peux prier, invoquer son nom, il entend mes prières, il les reçoit et il les exauce. C'est un grand privilège de connaître Jésus. C'est pour cela que nous pouvons être forts, parce que lui est fort et nous sommes forts de sa force à lui. Pas nous-mêmes, mais de sa force à lui. Et enfin, c'est un honneur. Est-ce que vous êtes fiers d'appartenir à Jésus? Moi, je suis fier de lui appartenir, de parler de lui, de chercher sa présence, de chanter son nom, de prêcher dans le nom de Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce, Jésus! N'ayons jamais honte de notre Sauveur. Nous pouvons parler de lui. Les gens parlent de toute autre chose. Eh bien, parlons de Jésus. Nous sommes fiers. C'est un honneur pour nous de lui appartenir. C'est un honneur. C'est magnifique. Alors, dans certaines églises de l'Apocalypse, 5 sur 7, ils avaient perdu de vue ces choses. Ils s'étaient écartés de ces fondements. Ils s'étaient écartés de la révélation, de ce qu'ils étaient devenus en Christ, de la maison spirituelle. Ils s'étaient écartés de ces choses. Et quand nous lisons « Jésus est venu » et il leur a spécifié, il leur a montré non pas ce que vous dites que vous êtes, mais voilà la réalité de ce qu'est l'Église. Mais il ne les condamne pas. Il leur dit « Repentez-vous, repentez-vous, revenez, je vous conseille d'acheter du collyre, etc. » C'est beau ce que le Seigneur fait, même s'il s'était écarté complètement, il n'y avait plus vraiment de révérence, il n'y avait plus de respect pour la maison de Dieu, il n'y avait plus rien dans certaines églises, mais Christ ne les a pas condamnés. Il est venu, il a marché au milieu de ces églises et leur a dit « Vous faites fausse route, revenez, repentez-vous. » Et à ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit pourra revenir. C'est moi qui le dis, c'est pas écrit. Mais voilà, si 5 églises sur 7, Jésus va leur faire des reproches, mais afin de les amener à la repentance, et c'est ce que le Seigneur veut toujours faire, nous amener à la repentance, nous ramener sur le chemin, nous redonner la bonne vision, nous faire réaliser ce que nous sommes devenus en Christ. Et ça, si quelqu'un est abattu, eh bien dire « Ouais, mais finalement, c'est vrai, tout ce que j'ai dans le Seigneur, tout ce que je suis devenu, quand je lis sa parole, quand je lis qui est Jésus, eh bien il y a de quoi me redonner des forces, comme Élie qui a bu cette cruche d'eau et qui a mangé ce gâteau, bon symbole de la parole de Dieu, il a pu marcher et courir pendant 40 jours, marcher pendant 40 jours. Alors, je termine, nous ne sommes pas à l'abri, nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber dans l'assoupissement spirituel. Que cette exhortation, nous finirons l'exhortation de ce passage, mais que cette exhortation nous ramène à dire « Mais oui, finalement, il faut que je redécouvre encore ce à quoi le Seigneur m'a destiné en me sauvant. » Des pierres vivantes pour. Le but, c'est de former une maison spirituelle. Et pourquoi ? Pour offrir des sacrifices à Dieu et afin que son nom soit glorifié et son nom soit élevé. Alors, une vue élevée de Christ dans une église crée une église noble, une église forte, une église solide, une église bénie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. On finira cette exhortation, mais que Dieu nous aide et nous ouvre les yeux, parce que nous perdons de vue quand il y a, c'est vrai, des difficultés, on voit que la difficulté, mais que le Seigneur, en lisant sa parole, qu'il nous ouvre les yeux, qu'il illumine les yeux de notre cœur, et que nous puissions terminer, alors que peut-être nous sommes allés prier, méditer la parole, découragés, que nous puissions lui dire « Seigneur, combien tu es grand, combien tu es bon, je veux te célébrer, malgré les difficultés, oui Seigneur, mais tout me vient de toi Seigneur. » Amen. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Seigneur, nous on n'aurait pas parlé comme ça, on n'aurait pas écrit des lettres comme ça, Seigneur, mais toi tu sais ce dont nous avons besoin. Seigneur, tu connais parfaitement nos cœurs. Et tu veux nous amener vraiment à regarder à toi de tout notre cœur. Seigneur, aide-nous quand nous lisons le livre saint, qu'il soit pour nous toujours une révélation fraîche, qu'il soit pour nous, Seigneur, toujours un sujet de louange, un sujet de reconnaissance. Quand nous lisons ta parole, Seigneur, nous te découvrons. Et quand nous découvrons la vie. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis chacun d'entre nous, bénis ceux qui peut-être n'ont pas pu venir, retenus par la maladie, Seigneur, visite-les ce soir, Seigneur, et que visite ceux qui nous regardent aussi sur Zoom, Seigneur, bénis-les, Seigneur, fortifie-les là où ils sont, et que ton nom, le nom de Jésus, soit toujours glorifié et élevé. Amen.